Le miracle des noces de Cana est d'une extrême importance. D'abord parce que c'est, dans l'évangile de Jean, le premier des miracles de Jésus. C'est son premier geste, son premier acte en tant que Messie, pourrions-nous dire, dans cet évangile. Et puis ensuite, à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 20, l'évangéliste fait dire à Jésus que ces miracles ont été faits pour que nous puissions, en les lisant, en les croyant, en les vivant, avoir la vie éternelle. C'est donc un enjeu considérable qui est dans ce miracle-là. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes et compliquées. C'est que le premier miracle de Jésus, ce n'est pas de guérir quelqu'un, ce n'est pas de ressusciter un mort, mais c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de gens qui faisaient la fête puissent continuer à avoir un peu plus de vin pour continuer à faire la fête. Avouez que c'est quand même très étrange. C'est même un peu trivial, je dirais. Bon, qu'il y ait des grands miracles, des grandes guérisons qui sauvent des vies, c'est formidable. Mais comment le premier miracle du Messie peut-il être de faire en sorte que de favoriser des gens qui sont dans un banquet de noces? Alors je crois qu'on peut en tirer plusieurs choses. D'abord, justement, la trivialité du geste. Le fait que Jésus ait été présent dans une noce, eh bien c'est déjà un message. Cela montre que Jésus n'était pas contre ni le mariage, ni les joies terrestres. Et là c'est important de le dire parce que trop souvent le christianisme s'est un peu égaré en faisant croire qu'il ne fallait surtout pas être trop joyeux, ni trop s'amuser, ni trop danser, ni trop boire. Et Calvin n'a pas été le dernier d'ailleurs à sombrer dans cette dérive du christianisme. En tout cas, Jésus n'était pas un gars austère. Jésus va de bon cœur dans une noce et non seulement il boit du vin, mais il en offre encore plus à ceux qui en manquaient. Donc voilà, les joies terrestres ne sont pas ni un péché, ni quelque chose qui soit opposé au domaine spirituel. Et non seulement il va y participer, mais il va y avoir une part active. Et c'est peut-être là d'ailleurs une chose essentielle, c'est qu'après tout, pourquoi toujours chercher des choses spirituelles compliquées? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que déjà une des grandes actions du Christ dans le monde, c'est de faire en sorte que les hommes, que les gens puissent être heureux ensemble? Ben c'est déjà pas mal, après tout, plutôt que de se taper dessus, si les gens peuvent être heureux ensemble, ils peuvent faire la fête ensemble, ils peuvent banqueter ensemble, eh bien il y a déjà là quelque chose qui nous rapproche du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est bien que les hommes soient heureux ensemble. Bon, bien sûr, il ne faudrait peut-être pas s'arrêter là. Parce que on peut bien comprendre que le Christ, là, a favorisé quelque chose. Mais en même temps, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons du Christ? Et alors là, vous pouvez croire ou ne pas croire au miracle du changement de l'eau en vin. Ceux qui me connaissent le savent, personnellement, je n'y crois pas. Bon, mais peu importe, peut-être qu'il a vraiment transformé l'eau en vin, peut-être que ça s'est passé autrement, je n'en sais rien, ça n'est pas la question. Mais ce qui est évident, pour moi en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous n'attendons pas du Christ qu'il transforme l'eau en vin quand nous avons manqué de prévoyance dans nos noces et banquets. Par conséquent, il y a l'obligation pour nous d'interpréter spirituellement ce texte et d'essayer de ne pas le lire au pied de la lettre. Il y a l'obligation pour nous d'essayer de lire symboliquement ce passage et donc de ne pas dire que Jésus est très grand parce qu'il peut faire un miracle de ce type-là, mais de dire Jésus est très grand parce qu'il peut encore aujourd'hui pour nous apporter quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas le vin à 10, 11, 12 ou 13 degrés. L'essentiel, c'est autre chose. C'est un vin spirituel. Alors le vin dans la Bible, c'est un symbole constant. Le vin dans la Bible, c'est le signe de la joie, justement, et de la fête. Mais pas simplement de la joie terrestre, de la joie, je dirais, de la joie céleste aussi, de la joie spirituelle. Le vin dans la Bible, c'est la joie, comme le dit le psaume, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et donc, pour nous, l'équivalent du vin de la Bible, ce serait le champagne, voilà. Et peut-être que c'est justement une première chose que Jésus peut nous donner dans notre vie. C'est la joie et la fête. Jésus peut nous permettre que notre vie ne soit pas une vie à l'eau plate, mais que nous vivions au champagne. Voilà. C'est le plus, autrement dit. Ceux qui étaient à la noce, ils ne seraient pas morts. Ils avaient de l'eau à boire. Et avec du pain sec et de l'eau, on peut vivre. Mais avec du bon vin, eh bien, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, ça peut être déjà une première lecture de ce texte, de dire quand on invite le Christ à être présent dans sa vie, on ajoute quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de la joie et de la fête. Voilà. Alors, on peut vivre sans, on peut vivre sans Dieu, on peut vivre sans foi, on peut vivre sans idéal. Et les pécheurs, les voleurs, les méchants, les égoïstes ne vivent pas moins longtemps que ceux qui ont la foi. Et donc, justement, on n'est pas dans l'ordre matériel, on est dans un autre ordre, qui est l'ordre de la joie. Alors, cette joie, on voit d'ailleurs que dans les noces, avant même que Jésus intervienne, ils avaient quand même du vin. Donc ce serait aussi une erreur que de dire que sans Dieu ou sans foi, il n'y ait aucune joie. Bien sûr, on peut avoir des joies terrestres, mais la différence entre les joies terrestres et les joies spirituelles, pourrions-nous dire, c'est que les joies terrestres, elles ont une fin. En effet, le vin matériel du banquet vient à manquer, et donc les joies terrestres sont toujours limitées. Et c'est justement la différence, parce que le vin que fournit le Christ, lui, c'est une joie sans fin, en quelque sorte, et qui est encore meilleure. Cela dit, on peut essayer de voir un peu plus en détail quand même comment ça se passe, et de voir comment le Christ intervient dans cette noce pour apporter sa part de joie et de fête. Et là, je pense que nous pouvons justement nous identifier à cette noce, et de voir quel est le processus par lequel ils en arrivent à bénéficier de cette joie extraordinaire du vin nouveau. La première chose, c'est que, eh bien, que le Christ a été invité à la noce. Ça, c'est important. Le Christ a été invité, et en effet, je pense que Dieu ne vient pas en cassant les portes ou les fenêtres si on ne l'invite pas à venir, et il ne s'impose pas, le plus souvent, parfois peut-être, mais en général, il ne s'impose pas. Et donc, il a été invité. L'autre chose que je remarque, c'est que Jésus a été invité à la noce, mais qu'au départ, ceux qui l'ont invité l'ont fait sans aucune arrière-pensée, c'est-à-dire sans se dire « Ah, on va inviter Jésus, ça serait pas mal, si jamais on manquait de vin, peut-être qu'il pourrait faire un petit miracle. » Ils ont invité Jésus comme ça, pour rien, simplement ils l'ont invité. Et je pense que justement, ça n'est que comme ça que le Christ peut être invité dans notre vie, c'est-à-dire sans rien attendre, précisément. J'ai vu trop souvent des gens venir me voir et me dire « Voilà, monsieur le pasteur, je voudrais faire un cheminement parce que j'aimerais avoir la foi, je pense que ça m'apporterait quelque chose. » Tous ceux qui sont venus vers moi avec cette démarche sont repartis sans rien, finalement, sans que ce soit moi qui les en dissuade. Mais je crois que la démarche de foi ne peut être que gratuite. Je ne prie pas pour obtenir quelque chose. Je ne pratique pas ma religion dans le but que ça aille mieux de trouver un bonheur, un équilibre. Je crois parce que je crois. Je prie parce que je prie. Je donne parce que je donne. Et toute œuvre, toute action religieuse ou tout acte religieux, je pense, ne peut être que gratuit et désintéressé. Parce qu'un acte religieux, c'est un acte d'amour. Et l'amour ne peut être que désintéressé. L'amour, c'est du don. Et on reçoit quand on donne, mais si je donne en pensant que je recevrai, ce n'est plus du don, et je me coupe même de la dimension de l'amour. Je crois donc que la foi, la prière, la pratique, la recherche de Dieu ne peuvent être que des démarches gratuites, même s'il est vrai qu'elles peuvent nous apporter beaucoup. Mais là, le Christ est présent, au début il n'apporte rien, et vient un jour, un moment, où effectivement, il va tout changer. Mais pour que le Christ change tout dans une vie, à un moment donné, il faut encore qu'il soit un petit peu présent d'une certaine manière et qu'il soit prêt à se faire activer. Alors, qu'est-ce qui va déclencher justement l'activation du Christ? Qu'est-ce qui va déclencher son action? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je crois que la première chose qui va déclencher l'action du Christ, c'est le manque. En effet, les convives vivaient joyeusement. Et ils vont découvrir tout à coup que le vin manque. Et c'est à ce moment-là que Jésus pourra faire quelque chose. Peut-être faut-il, à un moment donné, voir les limites des joies terrestres pour pouvoir bénéficier vraiment des joies spirituelles. Peut-être faut-il comprendre que de courir sans arrêt après des buts matériels ne peut pas nous donner une satisfaction profonde, un accomplissement de notre être. Il faut comprendre à un moment donné qu'il nous manque quelque chose. Et c'est quand on prend conscience de cela que l'on peut découvrir justement cette autre chose et que le Christ peut nous apporter quelque chose qui est essentiel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la jeunesse a parfois plus de mal à découvrir le Christ, parce que peut-être qu'il faut justement faire l'expérience de la limitation des joies terrestres. Et à 20 ans, on ne la fait pas forcément. On peut la faire, mais ça n'est pas forcé. L'autre chose importante, c'est l'action de Marie. Parce qu'en effet, c'est bien elle qui va déclencher l'action du Christ. Et l'on dit d'ailleurs que, vous savez, dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la naissance de Jésus, mais à la place, il y a ce récit-là. Et les théologiens disent que, dans l'évangile de Jean, Marie est celle qui enfante Jésus comme Messie. C'est elle qui fait naître en Jésus le Christ, en quelque sorte. Donc il y a une sorte d'enfantement spirituel du Christ par Marie, précisément dans ce texte des noces de Cana. Alors Marie, que va-t-elle faire? Elle va d'abord faire remarquer ce manque et elle va s'adresser à Jésus. Et je crois que cet exemple de Marie est important parce que Marie est, dans la piété chrétienne, souvent comprise comme l'exemple même, l'archétype du croyant, le modèle en quelque sorte que nous devons suivre. Alors donc Marie, elle va faire une chose extraordinaire, c'est que d'abord elle va prendre conscience de ce manque, de cette limitation des joies terrestres, et là elle a la bonne réaction, c'est de s'adresser à Jésus en pensant que lui peut faire quelque chose. Elle ne sait pas très bien quoi en fait, elle ne lui dit pas fais ceci, fais cela, elle dit simplement regarde, le vin manque, c'est tout. Elle fait part de ce manque. Et reconnaître que nous et notre maison avons besoin du Christ, reconnaître que nous avons besoin de lui, reconnaître que notre vie manque de quelque chose, que notre vie est limitée, c'est déjà une démarche fondamentale. Et je dirais même que c'est le sens de la prière. Nous avons là l'exemple même de la prière du chrétien, qui ne consiste pas à réclamer à Dieu ceci ou cela, ou de lui dicter ce qu'il doit faire, mais simplement de dire à Dieu, « Voilà, Seigneur, il me manque cela, ou j'ai de la peine, ou j'ai de l'angoisse, ou j'ai de la peur, ou j'ai quelque chose qui ne va pas, en quelque sorte. » Et donc, on dit à Dieu son manque. Et je pense qu'il est important, justement, de ne pas lui dicter à l'avance ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qu'il doit faire. Parce que nous sommes, par définition, incapables de deviner ce qui est dans le projet de Dieu et de deviner la solution que Dieu trouvera pour pallier nos problèmes. Les solutions humaines, nous pouvons y réfléchir et nous pouvons essayer d'envisager des choses. Mais ce qui nous manque, c'est la solution que nous n'imaginons même pas et qui est celle que Dieu, lui, peut imaginer. C'est donc cette disponibilité extraordinaire que l'on trouve là dans le geste de Marie, quand, sans savoir ce que Jésus veut faire ni ce qu'il fera, elle dit simplement au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Elle ne sait pas quoi, mais voilà, « Faites ce qu'il vous dira » et elle s'en remet à lui. Jusqu'à présent, tout est très beau et on est bien dans la bonne piété chrétienne comme il faut et les choses se gâtent un peu avec la suite. Parce qu'en effet, la réponse de Marie est, vous le savez, extrêmement curieuse. Et la réponse de Jésus, pardon, est très curieuse. Et il va dire cette parole très dure à Marie. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Alors là, les théologiens sont beaucoup plus embarrassés. Il y a deux lectures de cela. Certains veulent y voir simplement un rejet de la part du Christ. C'est pas très sympathique de la part de Jésus, mais cela peut avoir un sens quand même, écoutez bien. Ça peut avoir un sens parce que l'on peut penser que Jésus est en quelque sorte agacé par cette demande de Marie, qui est qu'il trouve mal à propos, au mauvais moment, il dit « mon temps n'est pas encore venu, tu me bouscules, tu m'embêtes », enfin bref, Jésus n'est pas content, et il renvoie un peu Marie dans ses quartiers, en quelque sorte, admettons, mais n'empêche qu'il fera quand même quelque chose. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que nous aussi, peut-être que parfois notre prière est maladroite. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous demandons de travers, au mauvais moment, comme il ne faut pas, en nous trompant d'adresse à l'égard de Dieu, en nous trompant d'espérance. Eh bien, ne vous en faites pas. Même si vous faites une mauvaise prière, même si par hasard vous pouviez agacer Dieu, l'énerver, le contrarier, ça ne fait rien. Il vous entend quand même et il saura répondre en quelque sorte. Parce que même si Jésus est désagréable avec sa mère, il va finalement quand même faire ce qu'il lui demande. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. L'essentiel, c'est de voir ce qui nous manque et de compter sur le Christ, peu importe notre maladresse. D'autres théologiens, au contraire, veulent à tout prix défendre Marie, et c'est très louable, et disent, mais non, pas du tout, Jésus n'envoie pas du tout balader Marie. Quand il dit « qu'y a-t-il entre toi et moi ?», ce n'est pas une formule négative, il faut le comprendre positivement. Jésus qui dit plutôt, mais enfin, qu'y aurait-il de négatif entre toi et moi qui pourrait faire en sorte que je n'accède pas à ta demande? Donc pour dire, il n'y a rien, aucun obstacle entre nous, donc nous sommes au contraire totalement en communion, ce qui fait que, évidemment, je ferai ce que tu me demandes. Bon, cette formule permet de sauver la relation entre Marie et Jésus, est, je crois, moins intéressante d'un point de vue théologique. Mais dans tous les cas, Jésus répond par une question. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et c'est là où ça m'intéresse plus, parce que moi, je préfère faire une lecture théologique des textes. Et de se dire, voilà, la première chose, la première manière avec laquelle Jésus répond à notre prière, c'est par un questionnement. C'est-à-dire qu'il va lui-même nous aider à nous poser des questions. Et c'est par les questions que nous avançons, pas par les réponses. Et la première bonne question que nous pouvons nous poser, c'est justement celle-là. En tant qu'humain, qu'ai-je de commun avec le Christ? Qu'y a-t-il entre moi et le Christ? Voilà la vraie question. Voilà la vraie question que nous devrions tous nous poser avant quelques relations avec Dieu, ou même nous devrions sans arrêt nous poser dans notre propre foi, dans notre propre pratique. Qu'y a-t-il de commun entre moi et le Christ? En tant qu'humain, c'est-à-dire en tant que vivant dans un corps, dans cette vie biologique qui est en train de s'épuiser, qu'est-ce que j'ai de commun avec le Christ? Question essentielle. Et c'est comme cela que nous pourrons peut-être entendre la réponse de Dieu qui nous dit que nous sommes son enfant bien-aimé. Ensuite, et là c'est encore plus compliqué, pourquoi Jésus appelle-t-il sa mère « femme » ? Ça c'est quand même bizarre ça. Pourquoi il ne l'appelle pas « maman » comme tout le monde ? « Femme », curieuse manière d'appeler sa propre mère. Et il fera la même chose au pied de la croix d'ailleurs, hein, quand Marie sera au pied de la croix à la fin de l'Évangile. Là encore, les théologiens qui ont réponse à tout ont une réponse. Et ils disent que c'est parce que là, Marie n'est pas en tant que, ne doit pas être vue simplement en tant qu'image du croyant, plutôt doit être vue non pas simplement comme image de la maman de Jésus, mais comme image du croyant. C'est-à-dire comme une femme appelée à la fécondité. Et la fécondité, ça c'est un vieux thème biblique du Cantique des Cantiques, qui nous dit que nous, justement, les croyants, nous sommes comme des femmes qui devons être amoureuses de Dieu lui-même, qui est l'époux. Et nous devons nous laisser féconder par l'époux, comme Marie sera fécondée par le Saint-Esprit pour donner naissance au Christ. Ça, c'est un thème qui traverse toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et donc, quand Jésus appelle Marie « femme », c'est justement pour dire, eh bien, c'est elle qui va être invitée à s'unir à l'époux qui est le Christ. Et donc, tout à coup, le texte bascule. Mais oui, nous sommes bien dans une noce, mais finalement nous sommes dans la noce de qui avec qui? Eh bien peut-être que nous sommes dans une autre noce que celle que nous pensions. Nous sommes dans la noce que nous sommes invités à avoir nous-mêmes avec le Christ. Voilà. Et d'ailleurs, Marie va donner à Jésus le rôle de l'époux. Parce que dans la tradition ancienne, c'est l'époux qui devait fournir le vin. C'était son boulot ça à l'époux. Et quand il dit à Jésus, donne-leur du vin, puiser là où il vous donnera, c'est qu'il donne à Jésus le rôle de l'époux. Il est donc l'époux et c'est nous qui sommes, tout à coup, la femme invités à nous unir avec Dieu. Et donc le but, c'est l'union de Dieu avec le croyant et la joie que cela peut procurer. Ce procédé, ensuite, va permettre d'avancer un petit peu plus loin. Parce que continuons de voir comment ça se passe. Nous sommes invités à l'union mystique avec le Christ, bon, tout ça c'est très bien, nous nous posons des questions, mais ensuite, comment va s'y prendre Jésus? Là encore, il faut regarder de près. Pour offrir ce vin merveilleux de la vie éternelle, de la vie, de la joie et de la fête, il va d'abord s'adresser aux serviteurs et il va leur donner tout un processus compliqué en leur disant « verser de l'eau dans ces jarres, etc., puiser ». Là encore, c'est bizarre. Jésus, s'il est capable de faire un miracle, est bien capable de fournir du vin sans qu'il y ait tout ce procédé complexe de remplir les jarres avec de l'eau, de puiser, je ne sais quoi. Il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi donc tout ce micmac compliqué pour trouver le vin? Eh bien, peut-être parce que, justement, il va dire aux serviteurs, vous avez vous-même quelque chose à faire, en quelque sorte. C'est-à-dire que le Christ ne nous donne pas tout cuit le vin de la joie éternelle. Le Christ va nous dire, vous pouvez y participer en quelque sorte, et vous pouvez prendre part à une sorte de rentrer dans une démarche qui ensuite vous permettra d'accéder à ce vin nouveau. Cette démarche, elle passe par des jarres de purification. Vous savez que ces jarres de purification, ce n'étaient pas des vases sans utilité, c'étaient les jarres qui servaient aux rites religieux des Juifs, c'est-à-dire à la pratique cultuelle de l'époque. Et simplement, cette pratique cultuelle, elle est pleine d'eau, c'est-à-dire de quelque chose qui finalement est très bien, mais enfin, ce n'est pas non plus la joie de l'éternité. Et donc, première chose que nous pouvons dire, c'est que Jésus nous invite à passer par nos propres rites, en quelque sorte, par notre propre pratique. Oui, nous avons chacun nos rites et nos pratiques. Les Juifs, c'était des jarres, les catholiques, c'est d'aller à la messe, les protestants, d'aller au culte, d'autres de faire des prières, d'autres d'aller à Lourdes ou au musée du désert ou ce que vous voulez. Peu importe. Rentrez dans votre pratique. Allez-y, pratiquez à votre manière, selon votre rite. Je pense que la pratique et le rite n'apportent pas grand-chose en soi-même, parce que là n'est pas le but. Le but, ce n'est pas l'eau plate de nos pratiques, c'est le vin éternel. Mais c'est justement dans cette pratique que le miracle pourra se faire. Et dans cette pratique qui n'est peut-être pas l'essentiel, que pourra s'opérer le miracle du Christ qui va transformer l'eau plate de nos pratiques dans le vin du royaume éternel. Mais il faut bien qu'il y ait un réceptacle pour que le vin du Christ puisse venir. Et il vient justement dans nos propres rites, en quelque sorte. Donc à la fois, je relativise les rites, comme Jésus relativise les rites. Il n'arrête pas de le faire. Mais en même temps, il ne dit pas qu'ils ne servent à rien. Au contraire, ils ont une grande utilité, parce que c'est là-dedans que pourra, en quelque sorte, se déposer le vin spirituel de la présence réelle de Dieu. L'autre chose, c'est que cette eau, ce n'était pas non plus n'importe quel rite. C'était un rite de purification, c'est-à-dire, vous savez, les Juifs, comme le faisait Jean-Baptiste, reconnaissaient leurs péchés, leurs fautes, et se lavaient avec de l'eau pour signifier le pardon. Et là encore, ça me fait penser à quelque chose. C'est bien, oui, cette histoire de Jean-Baptiste, le préalable de l'Évangile, et qui nous rappelle qu'avant même de pouvoir écouter la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devons nous reconnaître pécheurs et nous savoir pardonner. Ça, c'est la base. C'est le point de départ de toute pratique religieuse, de toute découverte du Christ. D'ailleurs, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, découvrir que nous avons un manque, parce que le péché, ce n'est pas de se dire « je suis coupable, je suis mauvais, je suis... » Non, c'est de se dire « il me manque quelque chose ». Prendre conscience de son manque, et savoir que Dieu peut le combler. Se reconnaître pécheur et pardonner. C'est la base, là encore, de toute liturgie chrétienne. Dans toute liturgie chrétienne, il y a cette démarche pénitentielle de reconnaître son péché et de se savoir pardonner pour nous inviter à recevoir une vie nouvelle. Ensuite, effectivement, le Christ va s'adresser aux serviteurs. Il s'adresse à nous comme des serviteurs. Là encore, continuons dans la démarche. Oui, je me reconnais pécheur et pardonné, et ensuite le Christ me dit « tu es serviteur ». Ah, le serviteur, c'est pas simplement celui à qui on dit des bonnes paroles. Le serviteur, c'est celui qui sert, non d'une pipe. Et donc peut-être que là aussi, il y a quelque chose d'important pour nous, si nous voulons être croyants, de se dire « mais je suis serviteur du Seigneur, que ferai-je, Seigneur ?» Voilà, je suis à ton service, au service du royaume, au service de la paix, de l'amour, du pardon, de la tolérance, de tout cela. Et donc je suis comme un serviteur et je dis « Seigneur, que ferai-je » Et Jésus va proposer donc de faire effectivement quelque chose. Et d'ailleurs, le Christ lui-même donnera un commandement. Il va nous annoncer une bonne nouvelle, mais il va aussi nous donner un commandement. « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Et c'est quand on se veut soi-même serviteur que tout à coup on est capable d'aller puiser ce qui nous semblait de l'eau et qui devient pour nous un vin extraordinaire et que nous pouvons, dont nous pouvons bénéficier et que nous pouvons aussi faire rejaillir sur les autres. Et voilà donc la vie qui nous est proposée. Cette vie extraordinaire, cette vie de joie, de fête, de joie éternelle, de joie sans fin, de joie plus grande que toute joie matérielle. Et voici ce qui nous est proposé, c'est de pouvoir avoir une vie aussi de fécondité et de fête avec le Christ. Mais que cette relation au Christ est quelque chose de complexe qui se construit, avec au départ une invitation gratuite du Christ dont on ne peut pas savoir à l'avance où et comment elle apportera quelque chose d'essentiel, ensuite avec tout un cheminement de questionnement qui invite à nous aider à comprendre ce que le Christ peut apporter dans notre vie et nous donner ce qui nous manquera, nous donner pleinement le meilleur, et puis qu'il nous demandera aussi de nous une part, peut-être avoir une certaine démarche, une quête spirituelle, pour ne pas dire une pratique qu'il pourra remplir de vin, du vin de la joie et de la vie éternelle, une volonté de servir. Et alors, si nous sommes pleins d'esprit, plein de vie, de tout ce qu'il nous aura donné, nous pourrons à notre tour en distribuer en abondance autour de nous, comme le maître du repas de la noce. Et cette heure, nous dit le Christ, elle est maintenant venue. Donc les noces de Cana, ça n'était pas il y a 2000 ans, ce ne sera pas dans 2000 ans, c'est aujourd'hui et maintenant pour vous la bonne nouvelle. Amen.